en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, En habit vert s'intéresse au scientifique et diplomate américain Benjamin Franklin, associé étranger à l'Académie des sciences, inventeur, entrepreneur, journaliste, le Musée des arts et métiers ainsi que le Musée Carnavalet à Paris lui ont consacré deux expositions qui se déroulent jusqu'en avril 2008 à l'occasion de la commémoration du tricentenaire de sa naissance. Canal Académie vous propose une émission En habit vert un peu particulière puisque dans quelques instants vous allez suivre le parcours sonore de l'exposition du Musée des arts et métiers, plus spécialement consacrée aux inventions de Benjamin Franklin ainsi qu'à sa vie parisienne. Suivons sans plus tarder Laurent Vavasseur, médiateur scientifique, pour une visite qui ne manque pas d'humour.
Benjamin Franklin, né, lui, dans ce qu'on appelle les colonies américaines, c'est pas encore les États-Unis d'Amérique, en 1706 à Boston. Donc lui, né vraiment sur le continent américain, ce qui n'est pas le cas de son père. En fait, son père est né en Angleterre, mais il était protestant, donc il a fui en fait l'Angleterre, comme beaucoup de gens à l'époque, pour aller dans les colonies américaines. Benjamin Franklin est né d'un deuxième mariage. C'est pas le dernier enfant, mais c'est le dernier fils. Par contre, lui, il dit en gros qu'ils étaient 17 dans sa famille, mais il n'a connu que 13 enfants, parce que bon, il y avait beaucoup de mortalité infantile à l'époque. Donc lui, il commence, comme tous les enfants à l'époque, on va à l'école. Donc il suit les cours de primaire, ainsi de suite, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et en fait, son père devait lui faire poursuivre des études, mais il n'a pas assez d'argent pour financer ses études parce que son papa, il fabrique des savons et des bougies. Donc n'ayant pas assez d'argent, il va prendre Benjamin Franklin en apprentissage chez lui, dans sa fabrique de savons et de bougies. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça n'intéresse pas du tout Benjamin Franklin. Donc il va lui faire visiter, en gros, différents artisanats. Et au bout de 2 ans, il n'est toujours pas décidé. Donc comme il sait qu'il aime beaucoup la lecture, il va l'envoyer chez son frère, chez son demi-frère en réalité, qui est imprimeur à Boston. Donc il va commencer son apprentissage à Boston comme imprimeur. Et ça restera d'ailleurs le seul métier de Benjamin Franklin. Il dit que si on a à retenir quelque chose de lui, c'est qu'il était imprimeur. Donc à l'âge de 12 ans, il commence sa carrière. Alors pour commencer l'imprimerie, on va commencer avec une Bible. Un petit mot sur cette Bible-là, donc, comme vous le voyez, qui n'est pas du tout une Bible de poche, mais une Bible de pupitre, donc qui peut être utilisée dans une église. Alors cette Bible-là, en fait, il l'a offert à sa fille, qui s'appelle Sarah, donc on voit ici d'ailleurs l'écriture de Benjamin Franklin. Alors il l'a achetée lors de son deuxième voyage en Angleterre. Alors cette Bible-là, elle est intéressante parce que le monsieur qui l'a faite est un monsieur très très important. Si vous avez Word chez vous, par exemple, vous connaissez la typo Baskerville, donc monsieur Baskerville, c'est lui qui a fait cette Bible-là. Alors c'est une typographie qui est d'une très très grande qualité, comme on peut le voir, d'une très grande finesse technique, mais ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que dans le monde anglo-saxon, ça ne sera pas la typographie qui sera utilisée préférentiellement, mais la Calson, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure dans la déclaration d'indépendance, c'est la typographie qu'on a utilisée. Et très rarement la Baskerville, d'ailleurs, elle était pas très estimée dans son pays. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que Baskerville, comme Benjamin Franklin, c'est plutôt un déiste, donc en gros, il croit à l'existence d'un créateur, mais en gros, ça s'arrête un peu là. Alors, il offre quand même une Bible donc à sa fille, sachant qu'il est déiste, et en plus, il ne cautionne pas du tout le mariage de sa fille. Mais bon, je vous dis, il lui offre quand même cette fameuse Bible. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que Baskerville, vous connaissez pour autre chose, qui s'appelle le papier velin. C'est de la peau de veau mort-né, donc c'est une très belle qualité technique. Lui, il va faire un papier qui est d'une très très bonne qualité, où en particulier on n'a pas de verdure, donc c'est le fameux papier velin que Franklin en fait introduit en France lors de son arrivée. Et Didot fabriquera entre autres du papier velin. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette Bible. Alors vous avez ici d'ailleurs tous les descendants, enfin ça s'arrête en 1813, mais tous les descendants qui se sont passés de main en main cette fameuse Bible. Il a toujours énormément lu. Et là, on a mis quelques ouvrages qui l'ont beaucoup influencé. Donc, entre autres, les Vies de Plutarque, les Règles de société aussi, ça a beaucoup marqué tous ses écrits, Déclaration d'indépendance, toutes ces choses-là. Et une chose qui a beaucoup influencé son style, en tout cas, c'est The Spectator, en fait, qui est un journal pamphlétaire, qui est publié en Angleterre à cette époque-là, qui est fait par un monsieur qui s'appelle Addison. Et Benjamin Franklin, chez son père, traînait un exemplaire très abîmé du Spectator. Et ce qu'il s'amusait à faire, c'est lire cet ouvrage-là et après le laisser reposer dans sa tête pendant plusieurs mois et essayer d'imiter le style du Spectator, qui est un style très très direct. Et il dit que c'est ça qui a influencé beaucoup beaucoup lui, sa façon d'écrire les choses, parce qu'il est assez concis, assez direct, Benjamin Franklin. Et puis derrière moi, vous entendez une jolie petite musique. Benjamin Franklin, ce qu'il fait beaucoup, c'est qu'il raconte des histoires qui lui sont arrivées quand il était tout petit. Beaucoup plus tard, il ressort ces histoires-là. Et en particulier, cette histoire-là, il l'a racontée pour séduire Madame Brion. Donc, parce que quand il était à Paris, à 70 ans, il était encore très très vert. Donc, il a essayé de séduire un petit peu pas mal de personnes. Alors, le joueur de pipeau, on dit whistle en anglais, c'est un peu flageolé. Hein, c'est le même instrument chez nous actuellement. C'est un instrument qu'il va s'acheter le jour de ses 10 ans, le jour de son anniversaire. Donc, on lui donne quelques pennies hein, pour son anniversaire. Donc, il va acheter ce fameux pipeau. Et alors, il a cassé les oreilles de toute la famille toute la journée. Et en fait, on s'est moqué de lui parce qu'il a acheté son pipeau bien trop cher par rapport à la valeur réelle de l'objet. Et donc, il dit, lui, il a été humilié. Hein. Il dit qu'à partir de cette époque-là, en fait, il a vraiment la notion réelle de l'argent, qu'il faut acheter absolument les choses à leur valeur réelle, et que ça, ça l'a énormément influencé. Et donc, je dis beaucoup plus tard, quand il est en France, il va imprimer ça sur ses presses hein, qu'il avait à Passy, et donc il raconte cette histoire du joueur de pipeau. Alors, vous avez en anglais et en français. Hein. Alors, il écrit la partie anglaise, évidemment. Il écrit aussi la partie française. Alors, on ne sait pas s'il parlait très, 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 très bien français. En tout cas, c'est Madame Brion qui assure la traduction un peu littéraire hein, de ce tout petit, en fait, hein, comme ouvrage. Donc, ça, c'est une chose qu'il fait assez fréquemment. Hein. Pour séduire Madame Brion, je dis, ça n'a pas tellement bien marché, entre autres. Donc là, vous avez les objets qu'on retrouve dans une imprimerie, classiquement à cette époque-là. Alors, certains ont été utilisés par Benjamin Franklin, entre autres cette presse-là a été utilisée par lui. Alors, dans une imprimerie, vous avez en gros trois postes de travail hein, qui peuvent être tenus d'ailleurs par la même personne. Vous avez le monsieur qui s'appelle le compositeur. Donc c'est celui qui est disposé devant cet objet-là, qui utilise ce qu'on appelle une règle à composition. Donc c'est ce que vous avez ici. Hein. En fait, c'est pour mettre vos caractères mobiles hein, sur cette règle. Vous avez en haut ce qu'on appelle le haut de casse, c'est-à-dire les majuscules. En bas, ce qu'on appelle le bas de casse, c'est-à-dire les minuscules. À droite, chez nous, en haut là-bas, vous avez les lettres qui sont accentuées, les A, les E, ce qui n'est pas le cas à la mode anglo-saxonne. Hein. Et puis en dessous, vous avez les intervalles, ponctuation, numérotation, des choses comme ça. Donc en fait, le compositeur se met devant et il va mettre plusieurs caractères sur sa règle de composition, elle met en général trois lignes, hein, qui va assembler avec une petite ficelle, enfin des fois c'est pas toujours le cas, et qui va mettre après sur ce qu'on appelle la forme. Donc la forme c'est ça, hein, c'est votre page définitive en fait. Hein. Alors cette forme-là, une fois que vous l'avez montée, il faut l'ancrer. Hein, donc vous avez ici le système de balles ancreuses, ou tampon ancreur, hein, c'est la même chose, qui permettent d'ancrer cette fameuse forme. Alors l'idée c'est que l'encre est livrée à l'état solide, c'est souvent du noir de fumée qu'on va diluer avec de l'huile de lin généralement et un petit peu d'urée aussi, parce que l'urée est assez intéressante. Et l'urée sert aussi à mollir en fait le cuir hein, qui soit un petit peu plus souple. Donc une fois que j'ai dilué mon encre, hein, je tamponne dessus avec mes balles, après j'ancre ma forme et que je mets ensuite dans la presse, je fais un coup de presse. Et je peux pousser le chariot, je fais un deuxième coup de presse. Donc celle-ci est à double coup, ce qui n'est pas le cas des premières. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les presses n'ont pas beaucoup évolué pendant assez longtemps. En gros, de Gutenberg jusqu'en 1820, 30, 40, quand on va mettre de la vapeur dans les imprimeries, elles ont pratiquement cette tête-là. Et celle-ci a été réellement utilisée par Benjamin Franklin lors de son premier voyage en Angleterre. Important à dire aussi, c'est que lui, il y va très très tôt hein, en Angleterre. Alors, il commence son apprentissage avec son frère. Ça se passe pas très très bien parce que son frère, visiblement, est assez violent. Et donc, à un moment, il le quitte, bon, par des choses un petit peu compliquées. À New York, il ne trouve pas de travail. Après, il va à la Philadelphie. Là, il trouve du travail chez un monsieur qui s'appelle Keimer, dont il rentre en apprentissage. Hein. Et en fait, il va rencontrer également un gouverneur par des intrigues assez compliquées qui lui promet en fait de lui acheter une imprimerie et qu'il faut qu'il aille en Angleterre pour récupérer les presses et les caractères. Donc c'est ce qu'il fait. À l'âge de 18 ans, il part en Angleterre et quand il arrive en Angleterre, il s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout d'argent, comme prévu. Donc il va être obligé de travailler pendant un an et demi hein, chez un monsieur qui s'appelle Watt, qui était un imprimeur assez connu à l'époque. Et donc c'est là qu'il se forme en fait au métier d'imprimeur. Après, il revient à Philadelphie, il travaille toujours avec Keimer et petit à petit, en fait, il va prendre la place de Keimer jusqu'à lui racheter son imprimerie. Et là, il va publier des choses en son nom. Hein. Et une chose très très importante que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'Almanach du bonhomme Richard, enfin en français dans le texte. Alors ça, c'était assez considérable. Le succès que ça a eu, il commence en 1732 et pendant 25 ans, il va publier son fameux almanach. Alors c'est un peu comme l'almanach Vermeaux, hein, si vous voulez, d'une certaine façon. Alors ça fait 10 pages hein, au maximum. Vous voyez que le format est tout petit. Alors pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, le papier vient d'Angleterre. Hein. Tout est importé d'Angleterre, donc ça coûte assez cher. Donc c'est pour ça qu'on choisit des formats quand même assez petits. Alors c'est très très marrant dedans, parce que vous avez des prévisions météorologiques qui peuvent aller jusqu'à un an. Donc bon, vous savez qu'on est précis à 5 jours ou 10 jours hein, au maximum maintenant. Vous avez les lunaisons, tout ça, enfin tout ce qu'on retrouve dans l'almanach Vermeaux, et beaucoup de proverbes aussi. Hein. Alors vous avez par exemple Time is Money, qu'on connaît bien, le temps c'est de l'argent, qu'on doit à Benjamin Franklin. On a aussi, alors après des choses à goût plus ou moins douteux, vous avez par exemple les amis, c'est comme les poissons, au bout de 3 jours ça sent mauvais. Prends conseil dans le vin, mais décide-toi avec de l'eau. Enfin plein de proverbes de ce type-là. Hein. Et puis il ne publie jamais sous son nom, hein, l'almanach de l'homme Richard, mais c'est sous un pseudonyme qui s'appelle Richard Saunders, en fait, qui était un ancien astronome. Hein. Donc il publie toujours sous ce pseudo-là. C'est considérable hein, la quantité d'almanach qu'il a pu vendre. Hein. L'édition la première année, bon, qui a été réédité, il en a vendu à peu près 10 000 quand même, exemplaires, ce qui est considérable. Il faut savoir qu'en gros, à Philadelphie, à cette époque-là, vous avez entre 5 et 10 000 habitants à peu près. En fait, quand il rachète l'imprimerie à Keimer, Keimer n'a à peu près que 80 ou une centaine d'abonnés, hein, c'est le maximum qu'il est. Donc il rachète une imprimerie qui périclite un petit peu et il reprend donc la Gazette de Pennsylvanie qui avait un titre beaucoup plus long. Lui, il va raccourcir ce titre-là, donc on a la Gazette de Pennsylvanie, hein, c'est le titre que lui donne. Alors ici, vous avez un exemplaire et ça va lui assurer aussi pas mal de rentrées d'argent. Alors en fait, à l'époque, ce qu'il a très bien compris, c'est que dedans, il y a des fois quelques encarts publicitaires. Donc l'intérêt, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés parce que plus vous avez d'abonnés, plus vous pouvez vendre les espaces publicitaires chers, hein. Donc ça, il a très vite compris tout ça. Et aussi, qui est très très intéressant, c'est que la presse que vous avez dans les colonies américaines à l'époque, en fait, c'est de la presse qui vient d'Angleterre. Donc en fait, on raconte ce qui se passe en Angleterre, donc souvent avec un mois et demi de décalage. Et il y a un monsieur qui s'appelle le maître des postes. À cette époque-là, Benjamin Franklin n'est pas du tout maître des postes, mais il s'appelle Bradford. Donc c'est lui qui a la presse et qui la garde un petit peu, en fait, et qui distille les informations comme ça au compte-gouttes. Donc en fait, ses concurrents n'ont pas du tout accès à ce qui se passe en Angleterre. Donc Benjamin Franklin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de ce qui se passe à Philadelphie. Donc en Pennsylvanie, donc c'est un peu un journal local, et ça va lui attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de public. Puis alors après, dedans, vous avez des choses très, très rigolotes. Alors souvent des petits proverbes, toujours, hein, la poésie est là, c'est assez marrant. Vous avez un listing des 270 ou 269, je crois, exactement, expression populaire pour dire drunk, donc ivre. Donc en fait, il liste ces 270 expressions. Alors vous avez, bon, c'est classé par ordre alphabétique, hein, vous avez bourré comme une roue de brouette, par exemple, ça on comprend bien. Bourré comme quelqu'un qui a vu le roi de France, par exemple, des choses de ce type-là. Hein. Donc ça, il va avoir un succès assez considérable, hein, avec cette gazette. Et puis on lui doit aussi des publications qu'il fait avec son propre argent. Il faut savoir qu'en gros, 60% de ce qu'il publie, c'est des commandes. Hein. Et donc, il a publié ça, en fait, pour se rendre agréable auprès d'un monsieur qui lui a ouvert sa bibliothèque, pour essayer aussi, espérer avoir quelques petits marchés derrière. Et puis, je vous donne la technique pour faire du business à la méthode Franklin. En gros, lui, il calcule combien ça lui coûte d'imprimer un ouvrage, et après, il multiplie par 3, hein, pour vendre ce fameux ouvrage. Donc, voilà les marges qu'il s'autorise. Et là, vous avez des almanachs de poche, hein, donc beaucoup plus petits que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et là, c'est le deuxième magazine qui a été publié à Philadelphie. Parce qu'en fait, Benjamin Franklin était toujours un peu deuxième, hein, au niveau de l'imprimerie en tout cas. Et en fait, il va se faire devancer par son concurrent qui s'appelle Bradford, qui va publier son premier magazine 3 jours avant lui. Hein. Et lui, donc, publie celui-ci 3 jours plus tard. Et les deux n'ont eu aucun succès, hein, pratiquement, à l'époque. Il faut attendre quelques années plus tard pour que ça marche relativement mieux, en tout cas. Donc ça, voilà essentiellement son rôle d'imprimeur. Alors, un petit mot sur son réseau. Donc vous avez ici toutes les fameuses colonies, alors elles sont au nombre de 13, hein. Alors la classification est assez simple, ils ne se sont pas pris la tête. Vous avez les colonies du Nord, les colonies du Milieu et les colonies du Sud, donc voilà, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Alors historiquement, la première colonie, c'est la Virginie, en hommage à la Reine Vierge, hein, à la Reine d'Angleterre, et la dernière historique, c'est la Géorgie, en hommage au roi George. Hein. Et vous avez entre autres la Pennsylvanie ici, dont Philadelphie dépend. Alors pourquoi ça s'appelle Pennsylvanie? En fait, c'est Monsieur Penn qui a acheté des terres. Hein. Sylvanie, ça veut dire un peu sylvestre, si vous voulez, donc c'est les bois de Monsieur Penn. Hein. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la Pennsylvanie. Donc voilà toutes les colonies anglaises, les 13. Alors après, ce qui est très important, c'est le rôle de maître des postes, et il faut savoir que Benjamin Franklin sera maître des postes d'Amérique du Nord jusqu'en 1775, ce qui est considérable. C'est-à-dire que vous gérez tout ça. Alors on va voir ici les fameuses voies postales. Et qu'il va énormément améliorer. C'est-à-dire qu'il va supplanter petit à petit Bradford, qui entre autres n'était pas comptable, donc l'aspect financier n'était pas très, très bien géré. En plus, Benjamin Franklin est quand même un imprimeur d'assez bonne qualité. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va organiser tous ces fameux postes, tous ces relais de postes, hein, si vous voulez, en créant un appareil pour mesurer des distances, hein, pour que tous les relais soient pratiquement à la même distance les uns des autres. Ensuite, vous avez bon, les bureaux de poste réellement, hein, qu'on voit ici apparaître en bleu. Et après, le réseau d'imprimeurs de Benjamin Franklin, parce que vous allez voir qu'il est très rusé. En gros, lui, il travaille à Philadelphie, hein, dans son imprimerie, bon, ils sont deux, hein, ils sont associés. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il donne de l'argent à de jeunes imprimeurs qui l'envoient en fait s'installer un petit peu partout dans les colonies. Et si ça marche, il prend 50% en fait des bénéfices de ces imprimeurs-là. Donc en gros, il subventionne la création d'une nouvelle imprimerie. Et si ça fonctionne, hein, il prend un pourcentage dessus. Donc, ce qui lui permet, entre autres, d'étendre la diffusion de l'almanach de la Gazette de Passivanie, puis on dira plus tard d'avoir un monopole. Quand vous êtes maître des postes d'Amérique du Nord, vous avez un monopole sur la presse, sur les timbres fiscaux, sur l'arrivée du papier, tout ça. Quoique lui fabriquer en fait des usines à papier pour éviter de le faire venir d'Angleterre, ce qui rendait le très cher l'impression, entre autres. La première chose que va créer Benjamin Franklin avec ses amis, c'est une compagnie de pompiers. Parce qu'il avait remarqué qu'à Boston, il y avait ça, et également à Londres. Donc ce qui s'est dit, c'est que les incendies étaient catastrophiques dans les villes. Toutes les maisons sont en bois et tout a collé les unes à côté des autres. Donc un incendie peut s'avérer vraiment catastrophique. Donc il va créer l'Union Fire Company, donc une compagnie de pompiers qui ne sont pas professionnels dans le sens où on l'entend nous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réellement payés, mais ils sont exonérés de certaines taxes, ce qui vaut un peu à les payer. Donc il crée cette compagnie de pompiers. Alors chaque pompier avait chez lui des seaux qu'on a ici en cuir, donc pour aller chercher de l'eau, entre autres pour alimenter la pompe. Donc le principe, c'est que je mets de l'eau dans mes petits seaux et je vais remplir en fait le réservoir qu'il y a ici. Alors celle-ci, il faut être 10 pour la faire marcher, 5 de chaque côté plus les deux teneurs de lance. Ensuite, chaque pompier a des sacs en cuir en fait pour récupérer les biens des gens, les biens personnels et de valeur qu'il mettait dans ses sacs en cuir. Et il y avait des guetteurs aussi qui avaient des crécelles. Et en fait, dès que le guetteur voyait un incendie, il faisait sonner sa crécelle et tous les pompiers arrivaient pour éteindre ce fameux foyer. Alors l'Union Fire Company, ça marchait très très bien. Plein de gens ont voulu adhérer à cette Union Fire. Il a dit non, créez vos propres systèmes autonomes de pompiers, c'est ce qui va se passer. Un peu plus tard, il y aura entre 5 et 10 compagnies de pompiers à Philadelphie. Alors on lui doit aussi la création d'une bibliothèque de prêt gratuite, c'est-à-dire pour que les gens aient accès librement à la culture. Il y avait jusqu'à 10 000 ouvrages à l'époque, ce qui est quand même assez considérable. Il a créé un peu l'université de Pennsylvanie, à l'époque ça ne s'appelle pas comme ça. Et on lui doit aussi la création d'un hôpital public, une sorte de dispensaire. Alors ça n'est pas du tout son idée. En fait, c'est un médecin qui cherche à créer un dispensaire, mais il n'a pas de fonds pour le faire. Donc il en parle à Benjamin Franklin, qui va le mentionner dans sa gazette et dans l'almanach et dire ça serait pas mal qu'on ait en fait un hôpital public à Philadelphie. Il va faire appel à souscription et les gens vont donner de l'argent, ce qui va permettre en fait de créer cet hôpital là et Benjamin Franklin, qui tire toujours un petit peu les choses à lui, qu'il est le premier souscripteur de cet hôpital public. Alors Benjamin Franklin, quand il meurt en 90, il lègue de l'argent à la ville de Boston et à la ville de Philadelphie pour 200 ans. Donc il y a 200 ans, c'est-à-dire en 90, on a fait en fait l'inventaire de ce qui restait de l'argent qu'avait donné Benjamin Franklin. Alors ça a été placé, ça c'est évident, mais à Boston, il reste à peu près 2 millions de dollars et à Philadelphie, 7 millions de dollars. Donc ce qui vous laisse augurer de la fortune personnelle de Benjamin Franklin, qui était considérable, qui est assez d'ailleurs difficile à évaluer actuellement, parce qu'il avait beaucoup d'objets en nature. Le roi de France, il va faire une couronne avec des diamants, des choses comme ça. Donc voilà un peu son rôle au niveau de la société. Alors il fera partie de la loge maçonnique de Philadelphie, où d'ailleurs il sera vénérable au bout d'à peu près 3 ans. Il sera, on le verra tout à l'heure également, franc-maçon à Paris, dans la loge des Neuf Sœurs. Il sera également vénérable aussi plus tard. Sur la fabrication du papier monnaie. Alors en gros, en 1730, dans les colonies américaines, vous n'avez essentiellement que de la monnaie sonnante et trébuchante, des pièces d'or ou d'argent qui sont réservées en fait pour l'importation des matériaux. Et donc on sait la nécessité quand même du papier monnaie. Il y avait d'autres monnaies d'ailleurs qui existaient. Et Benjamin Franklin, c'est typique de Benjamin Franklin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire de façon anonyme une modeste enquête sur la nécessité d'avoir du papier monnaie et la nécessité aussi d'éviter la contrefaçon. Et ça tombe très bien parce que lui a une technique pour éviter la contrefaçon. Donc en fait, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il soulève un problème, mais lui, il a aussi la solution. Et la solution pour éviter la contrefaçon sur les billets, c'est ce qu'on appelle l'impression. Alors l'impression, c'est une chose qu'on utilise en botanique, qu'il va rencontrer avec ses amis de Junto et d'autres. D'ailleurs, il connaissait les botanistes, Bretnoul en particulier. Alors l'impression, ce n'est pas du tout inventé par Bretnoul. Le principe, c'est que vous prenez une feuille d'arbre, vous mettez en fait de l'encre de chaque côté et vous la mettez sur une feuille de papier, vous repliez votre feuille de papier et quand vous l'ouvrez, vous avez l'impression du recto verso de votre feuille d'arbre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une feuille d'arbre, c'est forcément unique. Donc si on en prend une, elle est inimitable en soi. Donc en fait, après, je fais une gravure en taille douce et je vais sur mes billets imprimer cette fameuse impression de feuille d'arbre, ce qu'on voit ici. Donc ce qui évite la contrefaçon théorique. Alors c'est des billets évidemment qui ne sont pas comme ceux qu'on connaît maintenant. Mais sur celui-ci en bas, c'est écrit mort, parce que la contrefaçon du papier monnaie est passible de la peine de mort. Et puis vous remarquerez qu'on parle de shilling et de livres, parce qu'à cette époque-là, la monnaie qu'on utilise dans les colonies américaines, c'est de la monnaie anglaise. Le dollar n'apparaît qu'en 1792 sous forme monétaire d'abord, et un peu plus tard sous forme papier, comme on le connaît un petit peu maintenant. Après 30 ans de carrière dans l'impression, dans l'imprimerie, il va arrêter complètement toute activité professionnelle. Donc à 42 ans, comme je vous dis, souvent fortune faite, il aurait pu s'arrêter d'ailleurs bien plus tôt. Et en fait, donc il arrête toute activité professionnelle pour se consacrer, comme tout gentilhomme à l'époque, à plein de choses assez différentes et variées, mais surtout à ce qu'on appelle la philosophie naturelle, qu'on appelle plutôt maintenant la science physique. Donc il va s'intéresser à la physique et en particulier à l'électricité, parce que s'il y a bien quelque chose qui se fait à cette époque-là, c'est l'électricité. Donc c'est ce qu'on va aller voir maintenant, un petit peu plus loin. On ne peut faire que de l'électricité statique. Quand vous frottez une règle en plastique, par exemple sur votre pull en laine, ça c'est l'électricité statique. Quand vous enlevez votre pyjama, des choses comme ça. Donc ça c'est une électricité qu'on connaît depuis très très longtemps. Et Benjamin Franklin ne fera jamais d'électricité dynamique, ce qu'on connaît bien avec l'invention de la pile Volta 1789-1800. Donc c'est vraiment une autre approche de l'électricité. Donc à l'époque on ne peut faire que de l'électricité statique. C'est très très ancien. Electron en grec ça veut dire ambre, parce qu'en fait depuis très longtemps on avait remarqué que l'ambre donc est une résine fossile. On faisait des bijoux avec de l'ambre, donc il faut la polir. Une fois que vous l'avez poli, vous êtes capable d'attirer des petits morceaux de papier. Donc on avait marqué que l'ambre était capable d'attirer des choses, et donc le mot électricité, ça vient de là. Ça veut dire qu'on a utilisé de l'ambre. D'ailleurs, si vous lisez l'encyclo Diderot et d'Alembert, à l'entrée électricité, il y a toujours en synonymie ambricité. On retrouve les deux termes, jusqu'à... Bon, ça a été abandonné assez rapidement. Donc ça, c'est connu depuis très très longtemps. Et on faisait un peu la comparaison avec une autre type d'attraction, qui était le magnétisme, parce que ça venait de la pierre de magnésie qu'avait la possibilité d'attirer les choses métalliques. Donc les deux choses existaient à l'époque. Il faut savoir que pendant très longtemps, en fait, on s'est plutôt consacré au magnétisme qu'à l'électricité statique. Il faut attendre 1600 avec l'invention des machines électrostatiques qui permettent d'obtenir beaucoup plus de charges électriques qu'on ne le faisait avant. Et vous avez ici une machine électrostatique qui a été utilisée par Benjamin Franklin, qui l'a d'ailleurs peut-être même lui fabriqué. Alors le principe des machines électrostatiques, à l'origine, c'était une boule de soufre qu'on faisait tourner. Après, ça sera une boule d'ambre. C'est Huygens qui dit que ce serait pas mal de mettre de l'ambre. Et après, on va s'apercevoir que le verre peut être très, très facilement électrisé. Donc, on mettait un globe de verre. Et plus tard, on va le remplacer par un disque de verre parce que c'est beaucoup moins fragile. Mais le principe, avec notre langage actuel, c'est que vous faites tourner le verre, en fait, comme le globe. Et il va arracher des électrons au petit coussinet que vous avez là. Donc, vous allez charger votre globe avec des électrons. Donc, c'est comme ça qu'on le dit maintenant. À l'époque, on ne parle pas du tout d'électrons, évidemment, parce qu'on ne l'avait pas encore découvert. Mais on parle de fluide électrique. C'est plutôt la terminologie qu'on emploie. Alors, Benjamin Franklin, lui, ses travaux en électricité commencent suite à la réception d'un objet qui s'appelle un tube de verre. Parce que avant, même en même temps qu'on utilisait ces machines-là, on frottait tout simplement un tube de verre sur de la peau de chat ou de la peau de lapin. Et donc c'est un monsieur qui s'appelle Collinson, qui est un scientifique anglais, un savant anglais plutôt on dirait à l'époque, qui lui envoie un tube avec une notice en allemand d'ailleurs. Et c'est là que Benjamin Franklin commence à travailler sur l'électricité statique. C'est ce qui se faisait beaucoup en Europe, dans les cabinets de physique et de curiosité. Et lui, il va avoir une approche assez neuve par rapport à ce qui se passait entre autres en France, parce qu'en France, il y a un monsieur dont on parlait de prince des électriciens qui s'appelait Labénolet. C'est lui, en gros, qui faisait l'électricité en France dans les cabinets de physique. C'est lui, d'ailleurs, qui a introduit l'air à bouteille de Leyde en France. Donc Benjamin Franklin va faire cela comme on le faisait partout et va avoir une approche, je dis, assez intéressante au point de vue théorique, beaucoup plus simple que ce que nous explique Labénolet. En particulier, l'explication que donne de la bouteille de LED Benjamin Franklin est vraiment assez intéressante. Des bouteilles de LED, vous en avez 35, si jamais vous faites le jeu. Pourquoi ça s'appelle Leyde? Parce que ça vient d'une ville de Hollande qui s'appelle Leyde. Donc en 1646-47, deux personnages, de façon indépendante, découvrent la propriété de cet objet-là. C'est le premier condensateur. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on est capable de stocker l'électricité. Donc simplement, vous avez une bouteille, parce que ça avait une forme de bouteille. À l'origine, on mettait de l'eau à l'intérieur qu'on essayait d'électriser. Plus tard, on s'apercevra qu'on peut mettre tout à fait des feuilles d'or. Donc un conducteur métallique, ça marche beaucoup mieux. Donc vous allez, si vous voulez mettre plein d'électrons à l'intérieur, le verre est un isolant, et sur l'extérieur, vous mettez un conducteur également. Alors une fois que vous avez chargé votre bouteille, si vous ne touchez pas, il ne se passe rien. Mais par contre, si vous prenez la bouteille par l'extérieur, donc avec le conducteur, et si vous touchez le contacteur qui est en haut, vous fermez le circuit, donc en fait les électrons passent dans votre corps, donc vous ramassez un petit coup de jus. Donc la bouteille de LED, c'est ça, c'est le premier condensateur. Et l'explication que nous donne la Benelli de la bouteille de LED est plus compliquée que la bouteille elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, lui dit qu'il y a de l'électricité qui sort, un fluide qui sort de la bouteille, il y en a un qui sort de vous. Donc quand il se rencontre, comme les balles, il se tape comme ça, il repart dans l'autre sens. En repartant, il y a une partie qui fait un éclair, une partie qui fait de la lumière. Honnêtement, c'est vraiment plus compliqué que l'objet. Et Benjamin Franklin, qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Vous allez voir que la terminologie qu'on utilise actuellement, ça vient de Benjamin Franklin. Il nous dit qu'à l'intérieur de la bouteille de LED, il y a plus d'électricité, et à l'extérieur, il y en a moins. Donc vraiment plus en quantité. Donc le plus et le moins que vous utilisez actuellement, ça vient de Benjamin Franklin. Même si, honnêtement, son approche théorique a énormément de limites. Mais en tout cas, j'ai plus d'électricité à l'intérieur et moins à l'extérieur. On doit aussi l'idée de courant électrique et aussi, bon, sans doute avec d'autres, l'idée de batterie. Alors pourquoi est-ce que vous mettez une batterie dans votre voiture ? Pourquoi est-ce qu'on met les poulets en batterie ? En fait, c'est un terme militaire parce qu'on mettait les canons les uns à côté des autres sur le champ de bataille, donc on les mettait en batterie. Et bien, les bouteilles de LED, c'est pareil, on les met les unes à côté des autres pour les mettre en batterie, ce qui permet d'augmenter grandement l'intensité parce qu'honnêtement, une bouteille de LED, c'est beaucoup de voltage, mais c'est une intensité tellement faible que vous risquez rien. Par contre, quand on commence à en mettre 35, ça peut devenir assez dangereux. Donc en fait, Benjamin Franklin donne cette explication qui est honnêtement plus simple, même si elle a vraiment beaucoup, beaucoup de limites sur la bouteille de LED, et cette terminologie qu'on utilise maintenant vient de lui. Alors, ce qui fait que les élèves s'arrachent les cheveux, parce que là où j'ai le plus d'électricité, en fait, c'est là où j'ai le plus d'électrons, donc c'est là où c'est négatif. Donc c'est un peu compliqué actuellement. Mais bon, s'il avait frotté autre chose sur autre chose, on n'aurait pas eu cette chose-là. Alors, sur le paratonnerre, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'était marrant parce que c'était réalisé la première fois en France. En fait, Benjamin Franklin, à l'époque, les scientifiques ne font pas... D'ailleurs, on ne parle pas de scientifiques, on parle plutôt de savants, c'est pas vraiment un métier. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne publient pas des thèses comme on le fait maintenant, mais c'est essentiellement de la correspondance. Donc, Collinson est le correspondant anglais de Benjamin Franklin. Donc, Benjamin Franklin lui envoie des lettres sur ses théories, sur la bouteille de LED et toutes ces choses-là. Et en particulier, il lui envoie une lettre où il parle d'une expérience à réaliser. Parce que l'idée est quand même que les petits éclairs que je fais avec ma bouteille de LED et ce qui se passe dans le ciel, ça doit être quand même à peu près la même chose. Donc il dit, voilà une expérience à réaliser. Donc c'est évidemment en langue anglaise. Et le monsieur, sous l'impulsion de Buffon, en fait, qui va traduire les lettres de Collinson, s'appelle Dalibard. C'est Buffon qui lui demande de traduire ces lettres-là. Et donc en 1752, on va réaliser en France la première expérience réelle du paratonnerre. Donc c'est Dalibard, à Marly-la-Ville, qui va faire cette expérience-là. Buffon avait mis un paratonnerre également sur son château à Montbard. Et il y a un autre scientifique qui l'avait fait également intramuros à Paris. Alors le principe du paratonnerre qui est assez compliqué en réalité, c'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. Alors simplement, l'effet de pointe, c'est quand vous avez une pointe métallique, au sommet, toutes les charges se mettent au sommet de la pointe, ce qui fait que vous créez un champ électrique assez considérable, ce qui rend en fait l'air conductrice, qui ne l'est pas normalement, et donc ça, potentiellement, ça favorise le passage de l'éclair jusqu'à la pointe. Donc ça, l'effet de pointe, Benjamin Franklin dit que c'est lui qui le découvre. Le problème avec Benjamin Franklin, c'est qu'il ne fait jamais référence à ses sources. Et visiblement, le premier monsieur qui parle de l'effet de pointe s'appelle Jalabert, c'est un Suisse qui en parle d'ailleurs à la Benelli. Et la Benelli donne une explication très très compliquée. Mais en tout cas, ce qui se passe, donc, on va mettre des grandes tiges métalliques pour capter directement l'orage. Donc, je vous dis, le premier qui le fait, c'est Dalibard à Marly-la-Ville. Alors, il n'était pas là. Et c'est donc un prêtre qui a réussi à tirer quelques étincelles. Alors, ce qui est très rigolo, si vous lisez les ouvrages de l'époque, c'est que le prêtre, il sentait le soufre. Enfin, ça se ramassait. Donc, un prêtre qui sent le soufre, quand même, c'est assez embêtant. Alors, après, le principe simple du paratonnerre, si jamais vous mettez un paratonnerre sur votre maison, il faut absolument le relier à la terre. Parce qu'autrement, voilà ce qui se passe. Donc, là, vous allez voir une bouteille de LED qui apparaît. Et donc les charges se donnent rendez-vous dans votre maison, donc c'est pas trop sympa. Alors les orages sont à 90% négatifs, 10% sont positifs, donc les charges en fait n'ont qu'une envie, c'est de rejoindre les charges positives, donc ça se fait dans votre maison, donc c'est très embêtant. Pour éviter ça, il suffit tout simplement de relier votre paratonnerre à la terre, et là les charges vont passer directement dans ce qu'on appelait le magasin de l'électricité. Et d'ailleurs, là, vous avez un partenaire qui a appartenu à un des amis de Franklin, donc qui a servi, comme vous pouvez le voir, et qui a été couché par le vent après. Alors, la protection d'un paratonnerre, c'est ridicule en protection réelle, type Franklin, donc un paratonnerre simple. En gros, la protection d'un paratonnerre, c'est la hauteur du paratonnerre, et ça fait un rayon au sol égal à la hauteur, ce qui fait que sur la tour Eiffel, vous avez un paratonnerre. Hein, la tour Eiffel fait à peu près 300 mètres de haut, ce qui fait que la protection au sol est de 300 mètres de rayon. Ce qui est vraiment pas beaucoup, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, la tour Eiffel ne protège pas du tout toute la ville de Paris. Hein. Alors, ce qui va se passer pour Benjamin Franklin, et c'est la fameuse image, on pourrait dire presque d'Épinal, c'est qu'il n'a pas d'orage à disposition réelle qui tombe sur son paratonnerre à Philadelphie. Plutôt que d'attendre que la foudre tombe sur votre paratonnerre, vous allez chercher directement la foudre dans le ciel. Donc, c'est la fameuse expérience du cerf-volant qui avait été imaginée par un Français quelques mois plus tôt, et avec une approche beaucoup plus scientifique que Benjamin Franklin. Parce que Benjamin Franklin, il a eu de la chance. Hein. La première, c'est de ne pas mourir, parce qu'un éclair d'orage, c'est 30 000 ampères. Alors, je sais pas si vous savez, mais 0,1 ampère, ça tue. Hein. Donc 30 000 ampères, c'est quand même assez considérable. Et la deuxième chance qu'il ait eue, c'est qu'en fait, il utilise du fil de chanvre. Le chanvre est un isolant électrique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a de la pluie hein, qui arrive. Et donc la pluie a mouillé le fil de chanvre, ce qui lui a permis de rendre son fil de chanvre conducteur. Hein. Et c'est pour ça qu'il peut tirer des petites étincelles. Mais vraiment, c'est une expérience d'ailleurs qui a été raconté après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et c'est vraiment l'image, hein. Benjamin Franklin avec son cerf-volant, sa petite clé, et son fils qui est à côté de lui, qui est toujours représenté comme étant un enfant, alors qu'à cette époque-là, il est adulte, hein. Donc c'est vraiment, on ne sait pas trop ce qui s'est vraiment passé, mais en tout cas, on retient l'image de Franklin avec son petit cerf-volant. Donc ça, c'est pour montrer aussi que Benjamin Franklin touche à plein de choses, hein, assez variées. Donc il va fabriquer cet objet-là suite à la vue d'un concert à Londres. Alors vous vous rappelez peut-être de vos repas de famille où les enfants mouillent leurs doigts et le font tourner sur un verre. Donc c'est exactement le même principe. Lui a l'idée d'organiser un peu plus ça. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'harmonica à l'origine et qu'on appellera plus tard harmonica de verre. Donc j'ai plein de demi-sphères ici, hein. Alors là, vous avez un octave tous les demi-tons. Il faut savoir qu'il en a fait un avec 37 demi-sphères, hein, ce qui était quand même assez conséquent. Alors, les couleurs ici correspondent aux notes, qui ne sont pas nos notes à nous. Hein, c'est les notes anglo-saxonnes, donc c'est ABCD, hein, c'est pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors, le principe tout simple, hein, c'est qu'il manque visiblement le volant d'inertie. Donc, c'est un peu comme une machine à coudre. Vous allez pédaler, ce qui va faire tourner l'axe central, donc va mettre en rotation hein, simplement les demi-sphères. Là. Et après, vous mouillez vos doigts après les avoir préalablement dégraissés, et vous passez vos doigts en fait, sur ces coupoles, et ça fait le son qu'on entend, hein. Très très caractéristique. Une fois qu'il est accordé, ça ne bouge pas, hein. Ça peut durer très très longtemps. Alors cet objet-là a eu un succès assez considérable. Mozart a composé pour ce type d'objet-là. Mais en Allemagne, ça a été interdit à une époque, parce que ça, c'est fait avec du verre au plomb, donc en gros 30% de plomb à l'intérieur. Et donc c'est quand même assez dangereux. Et Benjamin Franklin, d'ailleurs, très tôt, va se préoccuper de la santé des imprimeurs, parce que les caractères sont en plomb, comme vous le savez, enfin, plomb, antimoine et étain, hein, ça mélange. Donc en fait, ça donne ce qu'on appelle le saturnisme. Hein. Donc très tôt, il va s'inquiéter de ce problème-là. Et en Allemagne, je sais qu'on interdira les harmonicas de verre tant qu'ils seront faits avec du verre au plomb. L'invention que vous connaissez bien, qui n'a pas breveté. Hein. Alors il faut savoir qu'à partir du moment où il est riche, il ne brevette plus. Hein. Donc le paratonnerre, il n'a jamais breveté le paratonnerre, il aurait pu le faire. Hein. Et il aurait été encore beaucoup plus riche. Mais on lui doit l'invention des fameuses lunettes double foyer ou bifocales, hein, ce qui est exactement la même chose. Il en avait marre en fait d'avoir deux paires de lunettes, une pour voir de près, une pour voir de loin. En particulier, il disait que c'était très embêtant quand il voyageait, parce qu'il écrivait beaucoup, hein. Il a eu plus de 600 correspondants. Donc pour écrire, il mettait une paire de lunettes et quand il voulait regarder le paysage, il fallait en mettre une autre. Donc il a eu l'idée, toute simple en fait, hein, de mettre sur sa même paire de lunettes en bas un verre pour voir de près et en bas, en haut, un verre pour voir de loin, ce qu'on appelle les doubles foyers actuellement. Hein. Ce type d'objet-là a un peu disparu en tout cas en Europe, mais je sais qu'aux États-Unis, ils utilisent encore hein, les doubles foyers. Nous, on préfère maintenant plutôt les verres progressifs. Hein. Rapidement, hein, sur l'histoire des États-Unis. pour arriver donc à cette déclaration d'indépendance. Alors, les colonies américaines, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont assez indépendantes depuis relativement longtemps. Ils s'autogèrent un peu, hein, bien qu'il n'ait pas de représentant du tout au niveau de l'Angleterre. Et vous savez que les Français ont des velléités également sur l'Amérique du Nord. Et donc, vous avez entendu parler de la guerre de 7 ans qui se termine en 1763. Donc, on renonce au Québec. Hein. On conserve par contre la Louisiane qui, à l'époque, constitue à peu près en surface 11 États américains actuellement. Hein. Et bon, vous savez que Napoléon l'a bradé quelques années plus tard pour quelques millions de livres à l'époque. Alors, ce qui se passe donc, c'est que la France, suite à beaucoup de déboires militaires, en fait, est expulsée de l'Amérique du Nord. Et donc, qu'est-ce que va faire la couronne anglaise, c'est qu'elle va faire payer aux colonies pour qu'eux soient toujours là-bas. Et donc, elle va mettre des taxes qui sont très, très impopulaires, des taxes sur le timbre, des taxes sur la mélasse, des taxes sur le thé, également le droit de casernement, c'est-à-dire que vous étiez obligé d'accepter les militaires chez vous. Hein. Donc, vous savez que les militaires ne se conduisent pas toujours de façon très bien. Et donc, les colonies vont très, très mal vivre, en fait, cette ingérence un peu de la couronne anglaise. Et ça va être le début de la guerre d'indépendance. Hein. Avec la fameuse Boston Tea Party, je ne sais pas si ça rappelle vos cours d'histoire, les insurgents, comme les appelaient à l'époque, vont se déguiser en Amérindiens et vont jeter dans le port de Boston des cargaisons de thé, en fait, à l'eau, pour lutter contre cette taxe sur le thé. Et là, ça va être le début, vraiment, de la guerre d'indépendance. Et puis, pour, en fait, fédérer un petit peu toutes les colonies, assez rapidement, on va décider de se déclarer indépendant. Donc, en 1776, vous avez, le 4 juillet, la fameuse déclaration d'indépendance des États-Unis, donc des 13 colonies. Et vous avez ici une version imprimée. Alors, à l'origine, c'est en 76, celle-ci a été imprimée en 77, donc un peu plus tard. À l'origine, il n'y avait pas tous les signataires. Donc là, apparaissent tous les signataires. Alors, c'est écrit évidemment en langue anglaise, avec la typo qui est du Calson sur celle-ci. Alors, bon, il y a trois parties qu'on retrouve beaucoup à l'époque. Vous avez la première partie, qui est donc ce qu'on appelle un préambule, où on dit en gros que les hommes naissent libres et égaux. Alors, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs. Mais là, par contre, il y a un créateur qui apparaît. Donc, les hommes naissent libres et égaux. Grâce au créateur. De ce fait-là, ils ont des droits. Le droit à accéder au bonheur, le droit à la propriété, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le préambule. Ensuite, c'est marqué « il ». Alors, c'est qui ?« Il », c'est le roi d'Angleterre. Donc, il nous impose le casernement, il nous impose des taxes injustes, il tue nos compatriotes, tout ça. Donc ça, c'est tous les griefs qu'on fait à la couronne anglaise. Et donc, en conséquence, puisqu'on est opprimé par un tyran, on a le droit de se révolter, une sorte de légitime défense. Donc, en conséquence, nous, les 13 colonies, on se déclare indépendants. Donc, c'est ça, là, en tout loyauté, toute honnêteté. Donc c'est ça qui est précisé à la fin. Donc la fameuse déclaration d'indépendance des États-Unis, qui est bon, un texte fondateur, alors qui a été écrite par Jefferson en réalité. Bon, Benjamin Franklin lui apporte sa petite touche en rendant le style de Jefferson un peu plus direct, parce qu'il y avait des phrases qui étaient quand même un peu longues, un peu compliquées. Donc lui les a rendues beaucoup plus directes. Mais voilà sa contribution, en tout cas, à la déclaration d'indépendance. Et on le voit, il est leur signataire ici, en Pennsylvanie. Alors elle a été imprimée par une femme, ce qui est très rare à l'époque, qui s'appelle Marie-Catherine Goddard. On l'a fait imprimer par elle parce qu'elle était pro-révolution, pro-révolutionnaire. Elle a hérité en fait de l'imprimerie de son mari. Donc c'est elle qui a été chargée d'imprimer ça. Il en reste très peu, je crois qu'il en reste 9 actuellement. Et c'est un document d'origine. Alors Marie-Catherine Goddard était également maîtresse des postes, on disait à l'époque. Et en fait, on va l'évincer de son travail parce que c'était une femme. En gros, voilà ce qu'ils lui ont dit. Maître des postes, c'est-à-dire qu'il faut se rendre sur les bureaux de poste, il faut voyager pas mal. Quand même, pour une femme, c'est fatigant. Ça fait beaucoup de voyages. Il vaudrait mieux mettre un homme à la place. Et donc c'est ce qui va se passer. On va l'évincer. Assez marrant, c'est que ça a mobilisé beaucoup de gens à l'époque. Donc 200 hommes vont la soutenir, c'est une sorte de pétition. Elle va d'ailleurs écrire à George Washington pour lui demander d'être rétablie dans son poste de maître des postes, mais jamais elle ne le sera. Mais en tout cas, c'est elle qui imprime cette belle chose-là. Alors en fait, Benjamin Franklin, lui, juste un peu avant, il était en Angleterre, et ça se passe très très mal, parce qu'en gros, il est représentant de la Pennsylvanie, puis d'autres colonies, c'est le moment de la Boston Tea Party, tout ça, ça se passe très mal, on lui demande des comptes, on va lui dire, c'est fini, tu n'es plus maître des postes d'Amérique du Nord, et il est parti d'Angleterre, et s'il était parti un peu plus tard, il serait fait arrêter. Donc il est parti, il arrive aux colonies encore, il participe à la rédaction de ça, et après, on l'envoie en France, en fait, pour demander le soutien de la France. Alors à cette époque-là, le roi de France ne veut absolument pas entendre parler d'aide aux colonies américaines. Parce que bon, même si on est en travers de la gorge, le traité de 63 avec la paix et qu'on a fait avec les Anglais, on ne veut pas en entendre parler. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que les États maintenant indépendants ne vont pas se rabibocher en fait avec la couronne anglaise. C'est la grosse crainte de Louis XVI. Puis vous savez aussi que la France est complètement ruinée. Donc en fait, on ne veut pas non plus intervenir directement. Et ce qui va se passer, ce qui va déclencher la participation ouverte de la France, c'est la bataille de Saratoga. Alors, ce qui se passe, c'est que les armées américaines sont démunies par rapport aux armées anglaises, ils n'ont pratiquement rien. Et contre toute attente, à Saratoga, les armées américaines vont renverser les armées anglaises. Et là, on se dit, en tout cas en France, ah, visiblement, ces États-là veulent vraiment être indépendants. Donc maintenant, on va œuvrer au grand jour. Donc Benjamin Franklin, au grand jour, va traiter avec le ministre des Finances, des Affaires étrangères qui s'appelle De Vergennes. Et donc, au grand public, on traite vraiment devant tous les gens. Il n'y a plus du tout à se cacher. Et on va aboutir à cette fameuse chose qui est le traité d'amitié, d'alliance et de commerce et d'éventuelle défense. Enfin bon, c'est bilingue, hein, français-anglais. Donc c'est 78, ça. Alors ça, c'est un traité qui nous dit quoi ? Qu'en gros, si quelqu'un attaque la France, les États-Unis les défendent, et si quelqu'un attaque les États-Unis, on les défend. Donc c'est plutôt ce cas-là qui se passe là. Et donc ça veut dire quoi ? C'est une déclaration ouverte de guerre à l'Angleterre. Hein. C'est-à-dire qu'on va défendre les Américains contre la couronne anglaise. C'est aussi une participation financière. Hein. La France, il faut savoir que là, c'est difficile à estimer, mais la France a donné entre 5 et 10 milliards d'euros en euros constants aux armées américaines à l'époque, hein, qui n'ont d'ailleurs pas tout remboursé. Alors les armées américaines manquaient de tout. Hein. On leur a envoyé des chaussures, des clous, des habits, des bateaux également, puis de l'argent aussi, hein, sonnante et trébuchante. Et puis ce qui est dit aussi, qu'on n'a pas tout à fait respecté Benjamin Franklin, c'est qu'on ne doit pas faire de paix séparée avec les Anglais, parce que ça c'était la crainte, hein, des Français. Et Benjamin Franklin, lui, il a été loyaliste, hein, jusqu'en 75. Hein. Il a toujours espéré que les colonies et la couronne allaient se remettre ensemble, et puis quand il s'est fait expulser en gros d'Angleterre, il n'était plus du tout loyaliste. Donc là, lui, son intérêt, c'est les États-Unis, hein. C'est pas la France ni l'Angleterre, donc il va jouer les deux. Hein. Et donc on lui a beaucoup reproché en France, hein, d'avoir essayé en secret de traiter directement avec l'Angleterre. Donc ça, c'est le traité d'alliance et d'amitié. Ensuite, ce qui va se passer, 1783, c'est la fin de la guerre. Donc l'Angleterre reconnaît l'indépendance des États-Unis de fait. C'est ce qu'on appelle le traité de Paris. En même temps, il y a le traité de Versailles qui, là, fait intervenir la France et les Espagnols aussi, parce que les Espagnols ont un rôle important, hein, à cette époque-là, avec pour idée, en fait, pour nous, de récupérer quelques petites colonies, des choses comme ça. Et puis, le dernier texte auquel va participer Benjamin Franklin, c'est la Constitution américaine, 1787. Donc, en fait, Benjamin Franklin, c'est le seul Américain qui a signé les quatre textes fondateurs, hein. Donc, la Déclaration d'indépendance, le traité d'amitié et de paix, le traité de Paris et la Constitution américaine. Bon, même si sur certains, il est assez loin. Hein. En particulier, la Constitution américaine, il est déjà très âgé, mais on l'associe quand même, hein, parce que c'est un monsieur important. Mais c'est quand même un des seuls signateurs, le seul signateur des quatre textes fondateurs, hein, des États-Unis. C'est pour ça aussi qu'il est très important. Alors, un petit mot aussi sur sa vie personnelle, qui est un petit peu plus compliquée. Il faut savoir que sa femme meurt, ça fait 10 ans qu'elle ne l'a pas vue. Hein. Benjamin Franklin, il a passé en gros 25 ans en dehors des États-Unis. Hein. Donc, pendant 10 ans, elle n'a pas vu son mari. Quand il est jeune, il dicte 13 vertus qui vont guider sa vie. Honnêteté, tempérance, chasteté. Hein, ça, c'est un peu plus. On n'est pas tout à fait sûr. Hein. Ça se passe pas bien non plus avec ses enfants. Son fils, en fait, est loyaliste. Hein. Donc, son fils va se faire arrêter. Il a failli être exécuté. Mais comme c'est le fils de Benjamin Franklin, on va l'envoyer en Angleterre. On dit, bon, c'est qu'on ne revient plus. Hein. Et puis, avec sa fille qui était en Angleterre, bon, on ne sait pas, ça se passera très, très bien. Par contre, ça se passe bien avec son petit-fils qui était avec lui, hein, quand il était à Passy, donc à l'hôtel du Valentinois. Alors, Passy, c'est la station de métro actuelle, hein, à Paris, mais à l'époque, c'était un village. Hein, donc, ce n'était pas le Paris intramuros. Alors, après, il y a des choses quand même un peu bizarres. On sait que à la fin de sa vie, il dit que ça serait pas mal de vendre de l'alcool aux Amérindiens pour y mettre à la place donc des bons agriculteurs américains. Donc on sait le ravage qu'on fait l'alcool, hein, sur les Amérindiens. Et on sait aussi qu'il préconisait la vente de terres dans l'Ohio, sachant qu'il n'était pas propriétaire de ces terres-là, hein, qu'il y avait aussi des Amérindiens, hein, dessus. Hein. Donc il y a un côté aussi quand même un petit peu sombre. Mais bon, je vous dis, une très belle vie en tout cas à Paris. Hein, il s'est beaucoup, beaucoup amusé. Louis XVI déteste Benjamin Franklin parce que c'est un peu une espèce de franklinomania, hein, dans le monde de l'aristocratie. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait imaginer des t-shirts Franklin, des clés USB Franklin. À l'époque, on a des services à dessert, partout vous retrouvez des portraits de Franklin, mais partout, partout. Et Louis XVI, bon, ça lui fait un peu de l'ombrage. Et d'ailleurs, il manque pas d'humour parce qu'il va offrir à Madame Polignac, enfin de Polignac, il va lui offrir un pot de chambre avec au fond l'image de Benjamin Franklin. Il va lui prêter ses mules, alors pas ses mules chaussons, hein, mais ses mules animales. En fait, quand Benjamin Franklin quitte la France en 85, il souffre de la goutte, hein, et également de calculs rénaux. Donc c'est très douloureux, donc il faut vous transporter tout doucement. Donc il lui prête ses mules pour que Benjamin Franklin puisse quitter la France. On pense aussi qu'il était très pressé de le voir partir. Hein. Mais bon, je vous dis, là, une vie parisienne, bon, assez intéressante. Il a vraiment été dans toute la haute société. Il a appris à nager, parce qu'il nage très très bien, Benjamin Franklin. Il a une technique de natation. Il a appris à nager à plein de Français à l'époque. On lui a interdit un moment, parce qu'en fait, beaucoup de gens sont noyés, hein, à l'époque. Et il a aussi participé avec d'autres, hein, à démonter ce qu'on appelle le mesmérisme. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle les souvenirs. C'était, en fait, on magnétisait les gens. Hein. Alors, ça s'appelle de l'autosuggestion maintenant. Hein. Mais le mesmérisme, ça commençait à prendre une tournure politique très importante. Et Louis XVI va demander à Franklin et à d'autres de regarder ce qui se passait au niveau du mesmérisme. On va s'apercevoir que bien supercherie. D'ailleurs, Mesmer sera obligé de quitter la France en toute hâte. Et il a assisté à des vols des frères montgolfiers, enfin des montgolfiens aussi. Il signe d'ailleurs les procès-verbaux. Bon, c'est-à-dire que quand il était en France, il était dans tous les réseaux. Je vous dis, il correspondait avec Lavoisier, dans tout. Il a rencontré Voltaire aussi, mais très peu. Hein. Mais il était dans tous ces fameux réseaux.
La visite de l'exposition consacrée à Benjamin Franklin se termine ici. Vous avez suivi les explications de Laurent Vavasseur, médiateur scientifique au Musée des Arts et Métiers à Paris, un enregistrement effectué en février 2008. Vous souhaitez poursuivre sur l'histoire de Benjamin Franklin? Alors nous vous invitons à télécharger notre seconde émission consacrée à l'associé étranger à l'Académie des sciences en compagnie de Jean Audouze, astrophysicien, ancien directeur du Palais de la Découverte, auteur de « Moi, Benjamin Franklin » paru en 2006 aux éditions Dunod. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles émissions.